Rencontre avec l'écrivain Olivier Gachter, qui a été autorisé expressément par le service de sécurité impériale de la Première République et par notre président bien-aimé à tous, saluons-le, Louis-Napoléon Bonaparte, de pouvoir parler des aventures de son héros intitulé Le Baron Noir, espèce de petit fascicule vendu pour 2 francs 6 sous sur les quais de la Seine, racontant l'histoire d'un héros steampunk, ou devrait-on dire vaporiste, à la française. Olivier, pouvez-vous nous en dire plus ?
Et ça commence bien. Là, je suis déjà scotché par la présentation. Au moins, le contexte est parfaitement planté. Donc, le Baron Noir, pour commencer, c'était un petit clin d'œil à notre bien-aimé Jules Verne, j'avais fait le premier volume dans cet esprit-là, en mettant un peu plus de héros en armure que ce que fait d'habitude notre tonton Jules, mais avec à peu près le même esprit. Et comme a priori l'accueil a été plutôt bon, le deuxième est sorti, donc Bellange cette fois, après l'ombre du maître espion. Et donc Bellange, cette fois-ci, on a le droit à rentrer un peu dans le milieu anarchiste. Le milieu anarchiste du 19e siècle, avec en guest star, vous aurez même le droit de voir passer Bakounine en personne. Et oui. Bellange elle-même, donc une mystérieuse anarchiste masquée qui a une fâcheuse tendance à donner des coups de fouet en acier et à laisser des bombes un peu partout. Et qui. Ne parvenant pas à tuer le président pendant une petite séance à l'opéra, a un autre plan machiavélique, mais lequel ? Donc c'est là-dessus que j'ai brodé, sur cette fois 60 pages de plus que le premier, donc ça plaira à ceux qui m'ont fait remarquer que le premier était légèrement court. Bon, j'espère que cette fois j'ai la bonne hauteur, et bon, plus qu'à attendre les retours des premiers lecteurs. Étant donné que j'ai découvert le roman fini, relié, moi-même, il y a 2-3 heures à peu près.
Pas mal. Avant toute chose, et vu qu'on ne l'a pas dit, sors ton fouet. Sors le fouet de ta femme chat, d'ailleurs, pour être plus exact. Quoique je ne suis pas sûr qu'on survivra à cette interview dans ce cas-là. Est-ce que tu peux nous délecter, justement, un peu comme de l'absinthe, du contexte chronique que tu t'es amusé à créer pour cet univers, qui est lui-même particulièrement savoureux ?
Alors, le contexte, disons, je suis parti du postulat de rester proche de Jules Verne, c'est-à-dire ne pas mettre de fantastique, mais de rester dans la technique. Hein, donc j'ai essayé d'utiliser mon bagage d'ingénieur pour rester proche des machines à vapeur, de l'hydraulique, de la pneumatique, des choses qui existaient déjà à l'époque. Alors par contre, il fallait que je donne un petit peu d'ampleur, sinon on quittait le steampunk pour faire vraiment du Jules Verne, et c'était pas non plus le but. Donc j'ai décidé de regarder un petit peu le passé politique de notre belle France, et je me suis amusé à faire de... Enfin, je l'explique pas vraiment dans le roman, mais plus dans la postface du premier volume, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'auraient pas déjà lu, où j'explique en gros la genèse. Donc je suis parti du fait que Louis XIV avait créé l'Académie des sciences. Par contre, ça n'intéressait pas tant que ça, la science. Hein. Il était plutôt religion.
Versailles, la chasse.
Et religion.
Et religion.
C'était un bon gros... C'était un bon gros bigot de base. Donc j'ai enlevé ce petit trait de caractère pour en faire un fanat de science, donc qui met toute son énergie, au lieu de chasser le protestant, plutôt toute son énergie à favoriser la science. Donc on se retrouve avec Denis Papin dans les sommités de l'Académie des sciences, et Denis Papin, dans ses ouvrages qui sont passés un peu inaperçus, il y en a un qui montre carrément un moteur à piston à vapeur, quoi. Un peu comme la machine de Watt, en un peu plus primitif, évidemment. Donc, à l'époque, tout le monde s'en... il était exilé, il n'avait pas de contact, personne n'a réagi à ça. En l'imaginant soutenu par le roi, tout de suite, on passe à une machine de Watt au XVIIe siècle, et un siècle d'avance sur... toute le... Voilà, donc on se retrouve en 1864 avec une technologie équivalente à ce qu'on avait pendant la Deuxième Guerre mondiale au niveau machine à vapeur, machine hydraulique, pourquoi pas frigo, frigorification, bah, ça marche très bien avec des machines à vapeur, hein. Compresser des gaz, c'est pas un problème. Par contre, j'ai pas touché à l'électricité. Quand les scientifiques sont le nez dans le guidon sur une discipline, des fois, ne font pas avancer les autres. Donc, je n'ai pas trouvé de raison d'aller plus vite, de faire avancer plus vite l'électricité.
Donc, ce monde n'a pas encore eu son Tesla.
Non, pas encore. On reste un ampère. On n'est pas plus avancé qu'on ne l'est en 1864. Donc, ce qui signifie quand même, c'est qu'il va falloir que je m'y mette. Parce que toutes les grandes découvertes et les débuts des applications électriques, c'est à partir de 65. Les premiers moteurs dignes de ce nom, en 1870, c'était fait, quoi. Je vais devoir, si je continue la série, commencer à songer sérieusement à voir des applications électriques apparaître. Mais bon, j'ai pas encore trop réfléchi au background par la suite, on verra bien. Et donc, alors ça met en place le premier volume. Donc on se retrouve avec Paris 1864, des dirigeables, des trains à vapeur à travers toute l'Europe, l'industrie sidérurgique qui est à l'avenant, hein, évidemment. Et politiquement parlant, j'ai un petit peu par caprice, et puis aussi parce que j'aime bien François Arago, j'ai donné une chance supplémentaire à la Seconde République de durer un petit peu. Donc au lieu d'avoir un Napoléon III, on a un Louis-Napoléon Bonaparte qui est président de la France.
Et pour la petite histoire, Napoléon Bonaparte est mort au moment de sa plus grande victoire à Austerlitz. Mais ça, vous le saviez déjà tous.
Effectivement, je l'avais oublié celui-là, tiens. Ah oui, parce que quand même, le problème de Napoléon Ier, c'est qu'il a quand même fait beaucoup de dégâts au niveau de la jeunesse, hein, et le dynamisme français s'est quand même pris une bonne claque suite à tout ça. Donc là, j'ai un Napoléon Bonaparte qui meurt à Austerlitz, juste après la victoire d'Austerlitz. Ça arrange bien tout le monde, parce qu'on se retrouve avec Talleyrand et Fouché qui se dépêchent de négocier avec les voisins pour essayer de maintenir ce qui a été quand même gagné, hein, et réussissent à prendre le pouvoir et en créant une seconde république, vu que l'héritier est très jeune, c'est facile à écarter. Du moment qu'ils ont l'argent, on leur donne un peu d'argent et tout va bien. Et on se retrouve donc avec François Arago, qui a été le dernier président de la Seconde République, comme chacun sait. Et donc, en l'occurrence, là, je lui ai quand même donné une petite douzaine d'années supplémentaires, ce qui permet d'avoir un super président scientifique qui permet de promouvoir... qui promeut la recherche, etc. Et permet de lancer des tas d'avancées techniques bien avant tout le monde.
Ah, les joies de l'Uchronie. Et avant de nous quitter, nous allons passer maintenant aux joies du steampunk, vu que tu t'es amusé à créer l'équivalent d'un Bruce Wayne à la française, qui, industriel le jour, va essayer de sauver ce qu'il est encore possible de sauver dans cette république française corrompue et pourrie jusqu'à la moelle, à l'aide de son super costume. Peux-tu nous en dire plus à ce niveau-là?
Alors, le costume... moi, j'ai toujours inventé et imaginé des personnages à costume à vapeur. Donc là, enfin, j'arrive à en placer un dans un texte et même dans une série. Je m'y connais bien en pneumatique, je m'y connais assez en vapeur. Donc bon, un petit costume avec des petits vérins, ça je vois très bien quoi faire. Donc, et je me suis... J'ai toujours bien aimé Batman, mais je me suis toujours demandé à quoi ça servait d'avoir un costume matelassé vu le poids que ça pèse. Donc j'ai pris le même avec un peu plus de muscles en pneumatique. Et évidemment, il y a quand même des grosses limites technologiques, mettre de la vapeur ou du pneumatique. Hein, les réserves d'énergie sont faibles, alors ça a le mérite de créer des rebondissements tout seul. C'est facile de tomber en panne d'air quand on est en train de se battre depuis plus d'un quart d'heure. Donc là, là, pour le héros, en fait, c'est assez simple. Hein, je mets des muscles, je mets des grappins, on lance des petites capsules chimiques, des trucs. C'est assez facile. Ce qui est plus intéressant, c'est les méchants, en fait. Parce que trouver un méchant avec une technologie originale sans se mettre à créer des trucs qui sortent du chapeau, c'est pas simple. Là, sur Bélange, je suis... Bon, tout le monde verra peut-être un clin d'œil à Catwoman, je sais pas, les gens me diront. Mais j'ai utilisé des principes de l'époque. Le vitriol, ça marche bien. L'acide bouché, ça marche très bien. Le phosphore, il y en avait plein à Paris. Enfin, plein bien caché, hein, mais j'ai trouvé où c'était. Et les fusées, ça commençait à exister, c'était très utilisé à Sébastopol. Bon, ça tirait pas droit, mais il se trouve que le gyroscope a été inventé en 1860 par Monsieur Foucault à Paris.
Avec un pendule.
Voilà, le pendule, je crois qu'il l'a fait après. Je suis pas sûr. Faut que je vérifie. Et donc, en additionnant tout ce qu'ils n'ont pas pensé additionner à l'époque, ben, on se retrouve avec un environnement steampunk pour pas cher, vu que tout aurait été vraiment possible. Autant dans le premier, on peut peut-être discuter certains détails, autant dans le second, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait jouable au 19e siècle avec la technologie de l'époque et sans forcer. C'est juste qu'ils n'ont pas pensé à l'additionner à l'époque.
Ne nous fais pas languir. Le tome 3 est déjà en cours d'écriture. Est-ce que tu travailles sur d'autres choses ?
Alors, le tome 3, bah, je suis en train de travailler sur le plan qui va être c'est assez compliqué parce que je vise une série de 6 ou 7. Donc, je vise une série de 6 ou 7 et j'ai trouvé le méchant final. J'ai trouvé tout le mobile de tout ce qui va se passer dans toute la série et qu'on pressent dans les deux premiers. Par contre, pour réussir, le troisième va avoir un plan assez compliqué. Donc, je suis sur le plan depuis plusieurs mois et j'ai pas encore terminé. J'ai pas assez avancé pour pouvoir attaquer l'écriture. Je désespère pas de finir à peu près pour avril l'année prochaine, mais il va falloir quand même que je cravache. Et sinon, outre une nouvelle pour me relaxer, j'ai pas d'autres projets en cours. J'ai Evariste qui est sorti il y a quelques mois et qui a de bons retours. Donc, je commence à accumuler un petit peu de matière pour éventuellement un deuxième volume. Là, c'est un peu plus moderne hein, comme époque. On est plutôt à Paris de nos jours. Mais bon, rien à court terme. Le plus proche, ça sera le troisième Baron.
D'accord. Ben, Olivier, merci beaucoup. Et bon voyage.
Merci.